Docteur Robert Yarbrough, Épître pastorale, Session 6. 1 Timothée 5. Symbole copyright 2024 Robert Yarbrough et Ted Rill de Brent. Il s'agit du Docteur Robert W. Yarbrough et de son enseignement sur les Épîtres pastorales, l'instruction apostolique pour les dirigeants pastoraux et leurs disciples. Séance 6, 1 Timothée 5. Nous poursuivons notre étude sur les épîtres pastorales, les instructions apostoliques pour les dirigeants spirituels et pour leurs disciples. Ce n'est pas seulement un type nommé Paul qui écrit, c'est la parole de Dieu. Lors de notre première conférence, j'ai cité le proverbe, je crois que c'est 30 verset 5, chaque parole de Dieu est éprouvée, il est un bouclier pour tous ceux qui se réfugient en lui. Et lorsque nous regardons 1 Timothée chapitre 5, c'est en quelque sorte un petit test de cette affirmation, car il y a beaucoup de choses dans le chapitre 5 qui, selon nous, ne s'appliquent pas directement à nous, et dans un sens, ce n'est pas le cas. Vous pouvez voir dans le titre de la NIV que le chapitre 5 est entièrement regroupé sous une seule rubrique, à savoir les veuves, les aînés et les esclaves. Et il se peut que vous n'ayez aucun contact direct avec quelqu'un répondant à cette description, alors vous pourriez dire, eh bien, pourquoi ai-je besoin de 1 Timothée 5? Mais je pense que ce que nous allons voir, c'est que, surtout si vous êtes pasteur, ou si vous êtes un aspirant pasteur, je pense que vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui affectent directement ou indirectement la plupart des gens. De nous, sinon de nous tous. Et plus directement, je vais vous rappeler quelque chose qui ne figurera probablement pas dans les commentaires des épîtres pastorales que vous lisez, mais Timothée est chargé par Paul de vivre, de se former à la piété, puis d'exercer le ministère de la piété. L'évangile de telle manière, servez Christ de telle manière qu'il y ait de la piété parmi le peuple de Dieu. Et quelque chose sur lequel l'Ancien Testament est très clair, et que nous voyons reflété encore et encore, et même jusqu'à Jésus sur la croix, nous voyons l'enseignement reflété, honorez votre père et votre mère. Et sur la croix, Jésus a veillé à ce que Marie, sa mère, soit prise en charge. Pourquoi a-t-il fait ça? Eh bien, c'est un gars au cœur tendre, mais aussi parce qu'il était un fils de l'Alliance, et de la Torah, la direction que Dieu donne à son peuple, et c'est dans le Décalogue, c'est dans les 10 commandements, honore ton père et ta mère. Dans les temps anciens, comme aujourd'hui, les femmes vivaient généralement plus longtemps que les hommes. Et aussi, bien souvent, parce que les femmes ont tant servi dans leur vie, si leur mari meurt, elles sont relativement à la merci de leur société. Bien souvent, les maris n'ont pas économisé comme ils auraient dû le faire, et je ne vais pas essayer de généraliser maintenant sur les mariages dans l'Antiquité et les mariages d'aujourd'hui, juste pour dire que chaque génération a le défi de s'occuper des personnes âgées, et la majorité des personnes âgées seront des femmes. C'était vrai dans le monde antique, l'espérance de vie, c'est vrai pour nous aussi. De plus, nous avons tous des parents, et si nous avons des parents, alors nous sommes appelés à faire de leurs soins à mesure qu'ils vieillissent une de nos préoccupations. Maintenant, nous pouvons avoir des frères et sœurs, et nous les laissons faire, et cela peut être bien, mais ce n'est peut-être pas bien. Vous constaterez peut-être que Dieu vous appelle à intervenir là où vos parents, ou vos frères et sœurs, qui devraient s'occuper de vos parents, peut-être qu'ils vivent plus près, ou autre, mais parfois nous constatons que nous devons prendre soin de nos parents, et statistiquement, si vous sont fidèles dans leurs soins jusqu'à la fin de leur vie, vous allez vous occuper d'une veuve. Cette veuve sera ta mère. Ainsi, les églises qui sont indifférentes aux soins des veuves ont un énorme angle mort, parce que chaque église, plus il y a de monde, plus il y a de veuves associées à ces gens, au moins sous la forme des mères et des grands-mères de les gens avec lesquels cette église est connectée. Et je ne sais pas ce qu'il en est de votre société, mais la société américaine s'en remet en grande partie au gouvernement. Et de nombreuses souffrances sont endurées par les mères et les grands-mères qui ne sont pas prises en charge par leur famille, et parfois les églises et les chrétiens font partie de cette amnésie culturelle de ce qu'ils doivent aux femmes plus âgées qui ont pris soin d'eux lorsqu'ils étaient enfants. Ne pensez donc pas que le chapitre 5 n'est pas pertinent simplement parce que nous y verrons beaucoup de choses sur les veuves parce qu'il s'applique à notre propre contexte. Mais il commence ainsi, ne réprimande pas durement un homme âgé. Pourquoi dirait-il ça? Eh bien, c'est parce que nous avons déjà vu dans 1 Timothée qu'il y a un certain désordre, et Timothée doit commander aux gens et leur demander de remettre les choses là où elles doivent être. Il doit affirmer le véritable enseignement et encourager une vie éthique et des pratiques de vie fondées sur les alliances. Et il y a des gens qui sont perdus. Ils ne le font pas correctement et il faut les corriger. Mais ne réprimandez pas durement un homme plus âgé, dit-il. Mais exhorte-le comme ton père, comme s'il était ton père. Là encore, en coulisses, honorez votre père et votre mère. C'est donc par là qu'il commence. Traitez les jeunes hommes comme des frères. Traitez les jeunes hommes comme des frères. Donc, ce n'est pas comme s'il était des punks. Vous pourriez penser que ce sont des punks, mais ne les considérez pas avec dédain. Respectez-les et traitez-les comme des frères. Les femmes plus âgées en tant que mères, ce qui signifie affectueuses, attentionnées, respectueuses et attentionnées. Et des femmes plus jeunes comme sûres d'une pureté absolue. Je fais donc ici l'observation que le leadership pastoral, qui par extension, est une démarche de discipulat. Lorsque vous faites du leadership pastoral, vous faites des disciples. Et lorsque vous faites bien du leadership pastoral et que vous aidez à faire des disciples, l'une des choses qui se produit est qu'ils apprennent ce dont ils ont besoin, par votre exemple, pour former d'autres personnes. Ainsi, vous créez un climat selon lequel les hommes plus âgés sont considérés par un homme plus jeune, comment les hommes plus jeunes sont considérés par quelqu'un de plus âgé, comme Timothy, qui est plus âgé que d'autres, et ensuite comment les femmes sont traitées. Nous avons parfois ce que nous appelons une philosophie au sein d'un groupe de personnes. Et il peut y avoir une philosophie dans une église, comme des préjugés raciaux. Il y a des églises où vous voyez, l'appartenance ethnique ici dit des choses désagréables sur les autres ethnies. Ce n'est pas très chrétien. Mais cela peut aussi arriver avec des tranches d'âge. Vous avez des églises plus jeunes, et elles n'aiment pas les personnes âgées. Ils ne vont pas baisser le volume des amplificateurs simplement parce que cela nuit aux acouphènes de toutes les personnes âgées. Parce qu'ils veulent être ce qu'ils veulent être. Et il y a des personnes âgées qui détestent les jeunes et leur style de culte. Ils ne veulent pas y aller. Et donc, il y a des styles. Il existe des styles de respect pour les personnes qui s'établissent dans l'église. Et cela commence par le responsable pastoral. Et le responsable pastoral et les dirigeants doivent être attentifs aux choses qui doivent être ajustées et aux choses qui doivent être changées, et ils doivent donner le ton pour un meilleur respect. En outre, le leadership pastoral appelle à l'humilité. Cela appelle au respect et à l'affection des autres. Si tu dois traiter quelqu'un comme ton père, ça ne veut pas dire que tu es d'accord, père. Ce n'est pas quelque chose d'obséquieux et de grouillant. C'est authentique. C'est ton père, et peut-être aurais-tu aimé qu'il le soit. Peut-être que ton père n'était pas respectable. Mais vous pouvez traiter les hommes plus âgés comme des pères respectables. Et il est étonnant de constater à quel point dans le leadership pastoral, les gens s'élèvent souvent au niveau que vous leur attribuez. Si vous les traitez avec indifférence ou si vous les traitez, gardez-les à distance, si vous ne leur faites pas confiance, si vous faites des blagues dans leur dos, vous ne priez pas pour eux, souvent les gens vous causent beaucoup de chagrin. Mais c'est étonnant de constater que lorsque vous prenez soin des gens, et Dieu le sait, que vous priez pour les gens et que vous démontrez votre sollicitude, bien souvent, les gens vous rendent l'appareil. Et vous développez de l'affection pour des gens que peut-être au début, vous n'aimiez même pas. C'est donc une philosophie. Et c'est ce que réclame le leadership pastoral. Et ce respect et cette affection pour les autres, à la fin du verset, après qu'il ait parlé des femmes et des mères et des femmes, des jeunes femmes comme des sûres, il y a ce petit qualificatif très important, en toute pureté absolue ou en toute pureté. Et bien sûr, cela concerne les femmes plus jeunes. Nous parlons ici de Timothée. C'est un homme. Et les hommes ont des motivations centrales, et les femmes ont des motivations centrales. Et ils sont donnés par Dieu. Il ne faut donc pas les diaboliser ou les dénigrer. Ils sont un moyen de grâce vers l'accomplissement du mandat de création. Nous avons envie d'entrer en contact sexuellement avec des personnes du sexe opposé. Et le résultat rédempteur, du point de vue de la grâce commune, ce sont les enfants, qui sont un don de Dieu. mais l'inconvénient, puisque nous vivons dans un monde pécheur, est que nos pulsions ne sont pas pures. Nous sommes tout à fait capables de nous laisser attirer par des choses qui ne sont pas saines pour nous. Nous devons donc apprendre à diriger nos énergies de manière à ce qu'elles soient déployées de manière licite et rédemptrice. Il existe actuellement une stratégie en Afghanistan. Et c'est une stratégie selon laquelle les femmes en public ne peuvent être vues de leurs yeux que si elles sont même autorisées à aller en public. Et même les présentateurs de nouvelles maintenant, ils doivent porter la burqa ou autre pour que c'est tout ce que vous puissiez voir. Mais ce n'est pas une stratégie chrétienne. La stratégie chrétienne n'est pas de tout couvrir. La stratégie chrétienne consiste à purifier le cœur par la parole de Dieu. Jésus ne se promenait pas avec un bandeau sur les yeux ni en mettant des couvertures sur les gens. Jésus avait le cœur pur. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, a dit Jésus. Et Paul dit à Timothée, Timothée, sois cette personne au cœur pur. Soyez cette personne. Et nous avons déjà entendu à plusieurs reprises la bonne conscience. Par la foi, nos péchés peuvent être pardonnés. Et grâce à la communion avec Dieu et à la pratique de l'utilisation de la piété, nous pouvons accepter nos pulsions sensuelles afin qu'elles se déploient de manière à honorer Dieu. Et nous pouvons considérer les femmes avec une relative pureté. Maintenant, il dit la pureté absolue dans la NIV. Ce mot en grec signifie toute pureté. Je pense qu'il dit toute la pureté possible. Je ne pense pas qu'une pureté absolue soit possible. Vous savez, nous sommes des pécheurs. Et nous sommes conscients au moins de la possibilité d'impureté. Je pense que Dieu lui-même connaît l'impureté. Mais je ne pense pas que Dieu soit tenté ou qu'il envisage la possibilité d'être impur. Nous ne ressemblons pas encore à Dieu dans cette vie. Mais nous pouvons être aussi purs que l'Évangile et le Saint-Esprit nous le rendent sur le moment. Et par rapport à la grâce de Dieu, c'est absolu. Nous pouvons être tout à fait en accord avec Dieu au moment et à la saison où nous nous trouvons dans nos ministères. Cela ouvre une merveilleuse possibilité d'alliance, d'amitié, de relations mère-fils et frères sûrs dans l'Église qui sont tout aussi puissantes pour le ministère dans l'Église qu'un mariage solide l'est pour un pasteur qui a de bonnes relations avec sa femme et communique bien et se réjouit de l'amour de l'autre et ils ont la conscience tranquille et ils sont sûrs de ne pas être impliqués dans des alliances avec d'autres hommes et femmes. Il y a donc une très forte présence de Dieu et la joie de l'amour conjugal. C'est une force très puissante qui génère de la joie pour la vie et le ministère dans le mariage. Vous pouvez avoir quelque chose comme ça avec des femmes plus âgées et des femmes plus jeunes dans l'Église. Relation de confiance. Relation de valorisation des ministères de prière des veuves. Et parfois, je sais qu'il y avait une femme qui, jusqu'à l'âge de presque 100 ans, dans une église dans laquelle j'ai exercé mon ministère pendant de nombreuses années, elle supervisait encore les huissiers et les préposés à l'accueil. Et elle vivait dans une maison de retraite. Elle n'utilisait pas de téléphone portable, mais elle était au téléphone chaque semaine pour avoir ses dossiers. Et elle a continué ainsi jusqu'à l'âge de presque 100 ans. Au cours des dernières années, le but l'amenait de la maison de retraite et les gens l'amenaient et la soutenaient en quelque sorte. Et elle ne voulait pas s'asseoir. Elle était appuyée contre un banc dans le narthex et elle saluait tout le monde elle-même. Et elle a prié. Elle était pieuse. Elle était humble. Elle était très autodérision. Elle disait toujours, « Oh, je ne sais pas si je vais rester ici encore longtemps. » Elle disait cela quand elle avait 85 ans, puis quand elle avait 90 ans, puis 95 ans, puis 98 ans. Je pense qu'elle a vécu jusqu'à environ 101 ans. Mais elle était un exemple de femme âgée qui était très précieuse dans le ministère de cette église. Elle était assise près du devant et peu importe où vous étiez dans le sermon, si vous vous arrêtiez et posiez une question, elle serait la première à y répondre. Elle était là tout le temps. Alors, traitez les femmes âgées comme votre mère. Et puis des femmes plus jeunes comme sœurs. C'est très difficile pour beaucoup d'hommes. Et c'est un défi auquel les hommes doivent faire face, surtout s'ils ont traversé une phase de leur vie où ils ont été impliqués dans la pornographie, ce qui est de plus en plus courant. Parce que c'est débilitant physiquement et émotionnellement et moralement. mais la grâce de Dieu peut nous purifier de cela et nous sortir de l'attraction descendante de ces ténèbres. Et l'un des symptômes qui nous délivre de cette obscurité est notre capacité à considérer les femmes plus jeunes, qui ont pu autrefois être objectivées de manière vulgaire, en ligne ou dans la presse. Nous commençons à les voir pour ce qu'elles sont aux yeux de Dieu, à savoir des femmes créées à l'image de Dieu, qui méritent notre service, qui méritent un ministère fidèle et méritent notre prière, et qui méritent notre respect d'une manière pure que l'Évangile peut réaliser. Dans la vie des hommes, même dans une culture dissolue comme la nôtre, qui utilise le sexe pour tout vendre. Et on me dit qu'année après année, lorsqu'ils font des études, le mot qui est le plus tapé dans les moteurs de recherche est sexe. Nous vivons donc dans un monde où le sexe a été marchandisé et l'immoralité occidentale a été normalisée. En fait, si vous dites que l'immoralité est mauvaise, surtout si vous dites que certains types d'immoralité sont mauvais, on appelle cela un discours de haine. Et c'est en train d'être criminalisé. Néanmoins, l'idéal que nous avons ici est de considérer les membres du sexe opposé d'une manière que la parole de Dieu décrit, il les voit. S'il voit des femmes plus jeunes, parce que nous avons Dieu comme Père commun, nous sommes membres d'une famille et nous avons le potentiel de les considérer avec la pureté que nous considérions comme une sûre cadette fidèle. Et c'est une belle chose, et je pense que ce n'est pas un hasard s'il préface la section suivante, qui concerne les veuves. Je ne pense pas que ce soit un hasard s'il contient les versets 1 et 2, car les versets 1 et 2 sont en quelque sorte un résumé des relations saines qui devraient exister entre les différents groupes d'âge et les deux sexes dans l'Église. Ce qui est vrai pour Timothée devrait l'être pour les autres hommes. Les hommes plus âgés devraient apprendre à respecter les hommes plus jeunes qui les respectent. Nous avons donc une ambiance positive dans les versets 1 et 2 pour les deux sexes par rapport à toutes les classes d'âge. Maintenant, si nous mettons cela en place et que cela est généré par l'Évangile, que arrive-t-il aux veuves? 5.3, accorder une reconnaissance appropriée aux veuves qui sont vraiment dans le besoin. Maintenant, il y a des veuves partout où l'on regarde, mais certaines d'entre elles n'ont pas vraiment besoin des ressources de l'Église dans son ensemble. Il est dit au verset 4 que si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, elle doit avant tout apprendre à mettre sa religion en pratique en prenant soin de sa propre famille, et ainsi en récompensant ses parents et ses grands-parents, car cela plaît à Dieu. C'est un verset qui change la vie de nombreuses familles, et beaucoup de familles l'ignorent parce qu'il nécessiterait un changement de style de vie. Cela pourrait nécessiter un changement de lieu. Vous devrez peut-être vous déplacer pour être près de cette personne, ou vous devrez peut-être déplacer cette personne pour qu'elle puisse être près de vous. Mais je veux répéter ce que Paul dit ici. Si c'est le cas, s'il y a une veuve avec des enfants ou des petits-enfants, c'est une façon de mettre notre religion en pratique. Et nous avons déjà vu, par la façon dont Paul exhorte Timothée, comment, j'utiliserai le mot, totalitaire, dans un sens positif. Dieu est totalitaire dans son appel à devenir disciple. Il ne dit pas, je vous appelle à être entièrement dévoué. Maintenant, vous mettez un astérisque à côté des choses qui, selon vous, ne font pas partie de vos compétences. Il dit, tu viens à moi, et je vais te rendre responsable de certaines choses, et tu découvriras comment tu t'appropries ma grâce. Je serai là pour vous. Mais vous devez prendre certaines décisions. Vous devez prendre certains engagements ici. Vous devez faire le travail. Je remplirai ce travail de plus de fruits et de joie que vous ne pourrez en gérer sur toute la ligne, mais cela peut ne pas sembler si agréable au début. Et bien sûr, si les soins aux personnes âgées le sont, cela ressemble à une condamnation à mort, car cela peut apporter un tel changement dans votre vie. Et les exigences en matière de soins peuvent être si écrasantes. Maintenant, il y a beaucoup d'écrits à ce sujet, et la seule chose que je voudrais dire, c'est que nous devons faire attention à ne pas aller trop loin. Cela peut demander beaucoup de prévoyance, et vous pouvez détruire votre santé, vous pouvez détruire votre mariage en assumant plus de responsabilités envers quelqu'un que vous ne pouvez en donner. Je ne suis pas contre les maisons de retraite et les soins institutionnalisés, car dans notre contexte, les besoins des gens sont parfois si grands, et surtout, l'un des inconvénients de la médecine occidentale est que les gens vivent de plus en plus longtemps, même si la qualité de vie est minimale. Ils ne peuvent pas vraiment bouger, mais ils ont des médicaments qui les maintiennent en vie pendant des années et des années et il n'est humainement pas possible pour une seule personne de prendre soin d'eux. Cette personne-là mourrait d'épuisement, parce qu'elle doit être soignée dans un cadre professionnel, où il y a du monde, il y a tout un staff. Ils ont des machines pour récupérer les gens, des médicaments, des aliments différents, et ils ont des médecins et des infirmières de garde. C'est une opération très sophistiquée. Mais si cela est bien fait, cela nécessite toujours des défenseurs en coulisses pour les superviser. Vous savez, cette personne qui reçoit ce genre de soins en profite énormément s'il y a une fille, une petite fille, un petit-fils ou un fils chrétien qui sera là et supervisera et gérera les choses et s'assurera que cette personne n'est pas négligée. Et puis bien sûr, il y a plein de réglages. Je pourrais nommer des contextes locaux que je connais où des femmes ou des hommes et des femmes ont accueilli une mère ou un père chez eux et les ont aidés à vivre dans leur maison jusqu'à leur mort ou jusqu'à ce qu'ils soient obligés d'aller dans une sorte d'institution. Mais cela doit être une préoccupation des fils, filles, petits-fils et petites-filles chrétiens. Et je sais que pour beaucoup, c'est le cas, mais je sais aussi que pour beaucoup, ce n'est pas le cas. La veuve qui est vraiment dans le besoin et qui se retrouve seule, met son espérance en Dieu et continue nuit et jour à prier et à demander de l'aide à Dieu. Mais la veuve qui vit pour le plaisir est morte même pendant qu'elle vit. Il injecte donc ici une note de reconnaissance de qualité. Il existe deux sortes de veuves, et nous devons prêter attention et encourager la piété chez les veuves et nous méfier des gens qui voudront jouer avec leur veuvage et l'utiliser pour se soutenir alors qu'en réalité ils mènent une vie qui ne plaît pas à Dieu mais qui prend profiter du sens des responsabilités des gens à prendre soin d'eux. Et Paul dit, donnez ces instructions au peuple afin que personne ne soit blâmé. On peut nous reprocher de négliger les veuves. Nous pouvons également être blâmés pour avoir permis aux veuves sans scrupules ou qui profitent des soins de Dieu. Il en parlera davantage dans une minute, mais pour l'instant, il dit que quiconque ne prend pas soin de ses proches et surtout de sa propre maison a renié la foi et est pire qu'un incroyant. Ce verset, alors que je travaillais sur mon commentaire, a changé ma vie et celle de ma femme parce que nous vivions loin de cette région, mais pendant que je travaillais sur ce verset, j'ai réalisé quel âge avaient ma mère et mon beau-père. Une chose en a entraîné une autre et nous avons parcouru 350 miles. J'ai accepté un autre emploi d'enseignant et nous avons commencé à prendre soin de ma mère et de mon beau-père parce qu'ils n'étaient plus dans une situation où ils pouvaient vivre à moins qu'il n'y ait quelqu'un à côté d'eux qui puisse superviser leur vie. Et c'est surtout ma femme qui a quitté le métier d'infirmière. Elle allaitait, mais elle a abandonné parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas allaiter et aussi vraiment prendre soin de ma mère et de mon beau-père. Mais ces paroles, quiconque ne les fournit pas a renié la foi et est pire qu'un incroyant. Ce sont des mots très forts. Et il parle, encore une fois, du désir de Dieu que nous soyons tous impliqués et que nous lui fassions confiance. Je n'avais pas le soin de ma mère dans mes projets futurs. Et il y avait beaucoup d'arguments que je pouvais faire valoir, j'ai des frères et sœurs. Et je fais. Mais en fin de compte, c'est juste ce mystère de ce que Dieu attend de vous et de moi. Vous devez donc prendre ces avertissements au sérieux. Et ne pensez pas, oh, je suis un chrétien. Je ne nie pas la foi en allant à l'encontre de ce que Dieu me dit directement de faire. Ce n'est jamais une bonne idée. Ananias et Saphira ont essayé. Et cela ne s'est pas bien passé pour eux. Lisez Actes chapitre 5. Ainsi, aucune veuve ne peut être inscrite sur la liste des veuves. Et cela nous dit qu'à Éphèse, ils avaient une liste de veuves. Ils avaient apparemment plus que ce dont ils pouvaient s'occuper. Mais ils s'occupaient de ces soins aux veuves. Et leur liste n'y inscrivait personne à moins d'avoir plus de 60 ans. C'était donc le premier qualificatif. Elle devait avoir été fidèle à son mari. Et elle devait être connue pour ses bonnes actions. Elle devait donc être une chrétienne sérieuse, pratiquante et confessante. Les bonnes actions comme élever des enfants. Vous savez, le mandat de création encore une fois. C'est une chose chrétienne. C'est une chose chrétienne pour une femme d'aimer son mari et de vouloir avoir des enfants pour la gloire de Dieu. Faire preuve d'hospitalité. Laver les pieds du peuple du Seigneur. Je pense que c'est probablement métaphorique. Mais faire les choses seules qui doivent être faites dans l'Église pour que l'Église puisse faire son travail. Aider ceux qui sont en difficulté et se consacrer à toutes sortes de bonnes actions. Eh bien, c'est un défi de taille. Mais il existe de telles femmes. Et leurs maris sont morts. Et l'Église leur doit quelque chose. Lorsqu'ils ont des antécédents de dévouement et de service. Et beaucoup de femmes le font. Beaucoup d'églises font du bon travail dans ce domaine. Et puis, beaucoup d'églises sont plutôt indifférentes à cela. C'est donc un défi très pertinent. Surtout à une époque où les soins médicaux prolongent la vie. Et de plus en plus de femmes vivent sans le soutien de leur mari qu'elles ont eu pendant 50, 60, 70 ans ou plus. Mon observation jusqu'à présent est que les chrétiens dont les parents vieillissent emportent la responsabilité. Et si nous sommes une femme plus jeune que nous projetons, nous savons statistiquement qu'un jour, si nous nous marions, nous serons probablement veuves. Ou encore, j'étais récemment à une réunion de classe et j'ai rencontré beaucoup de filles avec qui j'étais au lycée il y a 50 ans. Et je viens de me rappeler combien il y a de veuves suite à un divorce. De nombreux mariages se rompent et se rompent plus tard dans la vie aujourd'hui. Et les femmes en ont assez des hommes. Et ils ne vont pas se remarier. Ils n'ont pas besoin d'hommes. Mais elles vieillissent et n'auront pas le soutien d'un mari. Maintenant, pour certains d'entre eux, c'est libérateur et c'est une bénédiction. Mais que vous soyez veuve par décès ou veuve par divorce, vous êtes responsable de la piété de votre vie. Et ce n'est pas un mot de condamnation. Ce n'est qu'un constat et un défi. Il n'est jamais trop tard pour avancer dans la direction de Dieu. Il n'est jamais trop tard pour établir une voie plus élevée de piété et pour que les choses s'améliorent au lieu de stagner ou de stagner. Et cela ne prend pas beaucoup de mois et d'années pour établir une identité de piété si vous êtes pieux. Parce que c'est plutôt rare. Les gens qui vont à l'église et ceux qui sont généralement religieux ne sont pas rares. Mais les gens sont tous impliqués et les gens sont vraiment en prière et les gens font vraiment une différence comme cette femme âgée que j'ai mentionnée plus tôt, qui se démarque dans n'importe quelle église. Et personne ne le ferait pour se démarquer. Mais les pasteurs, les groupes de femmes et les groupes d'hommes, les gens reconnaissent quand quelqu'un parcourt le deuxième ou le troisième kilomètre et ils s'en soucient et ils aiment la parole de Dieu et ils portent les grâces de la piété. Donc, le fait que je sois veuve après un divorce ne signifie pas que je ne pourrai jamais bénéficier des soins de l'Église. D'une part, beaucoup de femmes sont divorcées et ce n'est pas de leur faute. Parfois, ce sont juste les hommes qui reviennent. Mais même si c'était en partie votre faute, Dieu pardonne, l'Église peut pardonner, et l'important est que l'Église et les veuves actuelles ou potentielles reconnaissent ces qualifications pour être prises en charge en tant que veuve. Et je ne sais pas ce qui est le plus important, le soin de la veuve ou celui des personnes qui se préparent soit à prendre soin d'elle, soit à être soignée en tant que veuve. Le tout. Je pense que c'est un chapitre très sous-estimé. L'ensemble est une belle image de l'œuvre organique de l'Évangile dans l'un des aspects les plus pratiques de la vie humaine, le vieillissement, et de la façon dont l'Église devrait être en première ligne et de la pertinence spirituelle du processus de vieillissement. Parce que plus de la moitié des membres de l'Église seront des femmes. Et un pourcentage élevé de toutes ces femmes seront veuves. Et toutes ces femmes sont liées aux hommes, directement ou indirectement. Ainsi, personne dans l'Église ne devrait être indifférent à l'enseignement sur les veuves dans ce chapitre, qui est massif. Il y a plus sur les veuves qu'autre chose dans le livre de 1 Timothée. Et ce n'est pas parce que c'est un livre bizarre, c'est parce que c'est un livre très pratique. Et il parle de la vie telle que nous la vivons réellement. Et qu'en est-il des jeunes veuves? Moins de 60 ans. Ne les mettez pas sur une telle liste. Lorsque leur désir sensuel l'emporte sur leur dévouement au Christ, ils veulent se marier. Et c'est une bonne chose de se marier. Mais si elles sont inscrites sur une liste, elles s'engagent désormais à devenir veuves. Et Paul dit, ne les tentez pas à se vendre à découvert en ce qui concerne le mandat de création. Peut-être qu'ils ne peuvent plus avoir d'enfants parce qu'ils ont un peu moins de 60 ans, mais ils peuvent toujours profiter des fruits du mariage. Elles peuvent toujours être une bonne épouse pour un mari qui a besoin d'une bonne épouse. et ils peuvent glorifier Dieu ensemble. Et qui sait, peut-être qu'elles ne seront veuves qu'à 90 ans. Parce qu'elles sont devenues veuves à 52 ans et se sont mariées à 55 ans. Et maintenant, Dieu leur donne un mari qui les aime. Et ils entrent ensemble dans une extrême vieillesse. Et c'est gagnant-gagnant. C'est une victoire pour le mari. C'est une victoire pour la femme. C'est une victoire pour l'Église car elle n'a pas besoin de figurer sur une liste et d'accepter l'aide que l'Église lui aurait apportée. De plus, elle pourra peut-être apporter son aide à sa propre mère ou grand-mère ou à d'autres veuves ou à d'autres femmes plus âgées de l'Église. Gagnant-gagnant-gagnant-gagnant. Ils se jugent s'ils rompent leur vue d'être veuves parce qu'ils ont rompu leur premier serment. Et certains pensent que c'est l'engagement d'être sur la liste en tant que veuve. Et certains pensent que c'est là l'engagement d'être chrétien. Premièrement, leur plus grande priorité est d'être fidèles au Christ. Ils ont rompu leur engagement d'être fidèles au Christ en suivant leurs désirs centraux. Lorsqu'ils s'étaient déjà engagés à être veuves, j'ai tendance à penser que c'est l'engagement de rester célibataire et d'être veuve, et non l'engagement d'être chrétien. D'ailleurs, et je crois que c'est le constat de Paul, ils prennent l'habitude de ne rien faire et d'aller de maison en maison. Et non seulement ils deviennent des oisifs, mais aussi des gens occupés qui disent des bêtises, disent des choses qu'ils ne devraient pas dire. Alors, ils deviennent des commères. Donc, je conseille aux veuves plus jeunes ici, c'est-à-dire moins de 60 ans. Je leur conseille de se marier. Or, dans notre société occidentale, cela peut être considéré comme désobligeant. Pourquoi ne pas lui conseiller de devenir avocat, dirigeant d'entreprise, pilote de ligne ou général d'armée? Mais nous parlons du monde antique. Et nous parlons aussi d'un monde dans lequel le mariage est une bonne chose. La société occidentale a tendance à dénigrer le mariage parce qu'il entrave votre carrière. Mais nous verrons comment cela se passera pour la culture occidentale. Je ne pense pas que ça se passe très bien en ce moment. C'est une bonne chose pour les femmes chrétiennes de trouver des hommes avec qui se marier et vice-versa. Et puis, s'ils sont assez jeunes pour avoir des enfants, mandat de création, gérer leur foyer. Maintenant, voyez, il y a la femme qui gère la maison. Les maris et les femmes gèrent ensemble. Elle a ses affaires. Il a ses affaires. Ne donnez à l'ennemi aucune possibilité de calomnie. Si elle tombe dans la tentation et dort, il y aura un terrain pour la calomnie. En fait, certains se sont déjà détournés de la politique. Donc c'est triste. Il le fait bien là-dessus. Mais Paul avait manifestement appris par expérience que les gens exploitaient la gratuité des soins. 2 Thessaloniciens 3 dit, « S'ils ne travaillent pas, qu'ils ne mangent pas non plus. » Donc, si nous sommes des individus valides dans l'Église, il devrait y avoir des moyens pour nous de compenser les largesses pour lesquelles nous pouvons dépendre de l'Église. Il devrait y avoir des moyens par lesquels nous pouvons, comme Paul le dit dans Éphésiens, travailler de nos mains pour avoir les moyens de donner aux autres. C'est ce qu'il dit aux gens qui sont tentés de voler. Apprenez à travailler de vos mains pour pouvoir donner aux autres. Les désirs des jeunes doivent être canalisés dans les résultats du mandat de création. Les désirs de jeunesse ne sont pas faux. Les désirs sexuels sont donnés par Dieu. Je tiens à le souligner. Parce que je ne veux pas que les gens oublient que nous sommes créés à l'image de Dieu et que nous sommes faits en tant qu'hommes et femmes. Et même si l'immoralité sexuelle est mauvaise, la sexualité est un don de Dieu. Et c'est à affirmer. Mais il faut le remettre en question dans des directions positives. Et Paul a déjà mentionné le mariage, et maintenant il a mentionné le mariage à plusieurs reprises et quelques relations. Et il l'affirme. La Bible l'affirme. Notre société n'affirme pas l'engagement conjugal parce qu'il fait obstacle à l'individualité. Ainsi, il affirme l'expression sexuelle, mais il l'affirme d'une manière destructrice pour la morale et le caractère des individus. Parce que quand on dort, ça arrache les planches de notre maison de caractère. En plus de nous exposer à de véritables maladies physiques et pathologiques. De plus, il ressort très clairement des Écritures qu'en ce qui concerne la responsabilité de l'homme, car la Bible met la responsabilité sur les hommes, pas sur les femmes. Lorsqu'un frère a des relations sexuelles avec quelqu'un qui n'est pas sa femme, il escroque quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas droit à une femme qui n'est pas votre épouse. Je m'en fiche si elle consent. Et je m'en fiche si tu es marié ou non. Si vous êtes chrétien, alors vous devez être réservé à cette femme qui sera votre épouse. Et nous avons une culture où souvent, même dans les groupes de jeunes chrétiens, les gens trouvent des moyens d'avoir des relations sexuelles. Et ce n'est pas bien. Et ce n'est pas sain. Et si tu veux te détruire, ce n'est pas une bonne chose. Mais lorsque vous détruisez d'autres personnes, vous êtes censé aimer votre prochain. Tu n'es pas censé forniquer avec eux. Et il se passe beaucoup de choses dans notre culture, et c'est une bonne chose. Je veux dire, on gagne beaucoup d'argent avec ça. Il existe des stations balnéaires où vous pouvez aller. Vous pouvez faire des voyages sexuels, des films, la télévision, des divertissements, des boîtes de nuit, toutes sortes de façons où les gens vivent leurs fantasmes, et beaucoup d'argent est gagné, et beaucoup de gens s'amusent beaucoup, et cela devient un mode de vie. De plus, on me dit que c'est comme si une habitude se formait. Je suppose que c'est pour ça qu'on appelle ça un vice, ou plutôt on l'appelait autrefois un vice. Ce genre de vie était autrefois appelé un vice, ce qui est un joli terme pour désigner un mauvais comportement qui finira par vous détruire. Eh bien, Paul est en mer avec des désirs sensuels sous cette lumière négative. Il met en garde contre toute indulgence envers eux parce qu'ils mènent dans cette direction. Mais si vous regardez les choses d'un point de vue chrétien, c'est l'une des meilleures choses qui soit jamais arrivée aux gens parce que la sexualité est une partie très importante de notre caractère et, humainement parlant, c'est l'un des signes du paradis sur terre. Vous savez, la bonne nourriture, nous mangeons trois fois par jour. Les bonnes relations avec les membres du sexe opposé, et en particulier avec notre conjoint, se répètent quotidiennement à travers notre communication entre nous. Il y a l'expérience sexuelle entre mari et femme. Ces choses sont affirmées dans la Bible, et nous avons besoin d'un respect saint pour ces choses dans l'Église. Il faut donc canaliser les désirs de la jeunesse. Paul, en encourageant les veuves à se marier, il ne dit rien de négatif. Il dit quelque chose de très, très positif et les encourage dans la direction que Dieu bénira. L'enjeu dans tout cela, c'est le jugement. Verset 12, ils se jugent eux-mêmes. C'est assez sérieux. Aussi, destruction de la communauté. Verset 13, cette image de commérage qui circule et répand des absurdités destructrices pour la communauté. Et puis la tromperie satanique. Certains ont déjà repoussé un ignoble Satan. Le pasteur devrait contrecarrer tout cela en encourageant positivement les veuves et ceux qui s'occupent d'elles. En établissant des structures qui leur permettent d'avoir la liste, ils peuvent déterminer qui y figure, qui n'y figure pas, et ainsi de suite. Cela fait partie de sa surveillance spirituelle. Si vous voulez savoir ce que signifie 2h12, ne leur permettez pas d'enseigner l'exercice de l'autorité, cette administration des soins aux veuves fait partie de l'exercice de l'autorité. Il faut que quelqu'un s'en charge. Quelqu'un est responsable devant Dieu des veuves de l'Église, et cela commence par le pasteur leader. Si une femme croyante a des veuves à sa charge, elle doit continuer à les aider et ne pas laisser l'Église s'en charger afin que l'Église puisse aider les veuves qui sont vraiment dans le besoin. Alors peut-être que c'est une fille avec une mère et une grand-mère. Il s'agit peut-être d'une femme de l'Église qui est relativement riche et qui s'occupe de plusieurs veuves. Paul dit que si ça continue, tant mieux. Parce qu'il y a certaines veuves qui n'ont d'autre recours que l'Église. Donc, si les gens peuvent le faire par eux-mêmes, ils auront plus de pouvoir. Les gens ne peuvent pas tout abandonner à l'Église s'ils peuvent le faire eux-mêmes. Les veuves qui sont vraiment dans le besoin sont celles qui y ont droit. Ils ont 60 ans, ils sont pieux, ils ne bénéficient d'aucun autre soutien. Venons-en maintenant aux aînés. Les anciens qui dirigent bien les affaires de l'Église méritent un double honneur, en particulier ceux dont le travail consiste à prêcher et à enseigner. Dans ma dénomination, nous appelons ces anciens enseignants. Nous avons des pasteurs dirigeants qui ne sont pas ordonnés comme anciens enseignants, et ils sont appelés anciens dirigeants. Ainsi, ils ont une autorité spirituelle dans l'Église et des responsabilités pastorales, mais ils ne sont pas des pasteurs enseignants appelés et ordonnés qui sont généralement allés au séminaire. et différentes églises le font de différentes manières. Mais certaines églises pensent qu'il s'agit ici d'anciens enseignants ou de surveillants qui prêchent et enseignent et de surveillants capables d'enseigner, mais ce n'est pas leur spécialité. Et parfois, vous voyez dans les églises, vous verrez des pasteurs d'administration ou des pasteurs d'assimilation ou des pasteurs de formation de disciples qui établissent des choses et enseignent certaines, mais ils ne sont pas vraiment le pasteur enseignant et prêchant de l'église. Je pense qu'il existe aujourd'hui une grande flexibilité dans la manière dont nous vivons cela dans les ordres religieux des différentes parties du monde. Mais cela donne une raison pour laquelle les pasteurs sont dignes d'honneur et un verset de l'Ancien Testament dit qu'il ne faut pas museler un bœuf pendant qu'il foule le grain. La seconde est tirée du Nouveau Testament. Le travailleur mérite son salaire. Et je pense que c'est la première preuve que Luc a été écrit à cette époque parce que cela vient de l'Évangile de Luc. Le travailleur mérite son salaire. Et le mot graphe dans les écrits du Nouveau Testament traduit ici les Écritures. Ce mot ne peut pas désigner une tradition orale. Et s'il est mis entre parenthèses avec le dicton de l'Ancien Testament, cela signifie que le verset du Nouveau Testament est également une écriture. C'est donc Paul qui appelle les Écritures à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. N'acceptez pas d'accusation contre un ancien à moins qu'elle ne soit portée par deux ou trois témoins. C'est la mosaïque de l'Ancien Testament. Jurisprudence du témoin. Les faits sont établis par deux ou trois témoins. Dieu rend témoignage à lui-même par de multiples témoins. Jésus dit que divers témoins ont attesté qui je suis. Jean-Baptiste, mes miracles, le Saint-Esprit, Dieu, le Père. C'est ainsi que nous établissons les faits dans la maison de Dieu. Et Timothée est dans cette serre de preuves où il y a une opposition. Il va y avoir une controverse qu'il devra gérer. Comment savoir quand et comment accuser quelqu'un? Eh bien, si quelqu'un accuse quelqu'un, cela ne veut rien dire. Il faut que cela soit corroboré. Alors ne vous fiez pas aux ouï-dire. Mais ces anciens qui pêchent, il peut y avoir des anciens contre lesquels quelqu'un porte plainte et cela peut être vrai. Eh bien, réprimandez devant tout le monde pour que les autres puissent prendre garde. Récemment, il y a eu une très grande dénomination aux États-Unis où il a été déterminé que des milliers, voire 790 pasteurs étaient coupables d'abus sexuels. Et cela était connu des dirigeants de cette dénomination, mais ils n'ont rien fait à ce sujet. Ils ont gardé le silence. Ils ne les réprimandèrent pas devant tout le monde pour que d'autres puissent en prendre garde. Et cela aura de nombreuses retombées. Paul dit que lorsque des anciens qui sont publiquement connus comme officiers de l'Église transgressent de manière condamnable, je ne veux pas dire qu'ils conduisent 3000 à l'heure au-dessus de la limite de vitesse ou qu'ils boivent 2000 chaque et qu'ils ajoutent à leur poids et qu'ils ne le sont pas prendre soin de leur corps correctement. Je dis que lorsqu'ils pratiquent des affaires sans scrupules, mentent, commérant, s'adonnent à l'immoralité sexuelle, volent, ils doivent être réprimandés afin que tout le monde voie l'intégrité des dirigeants de l'Église. Et puis Paul met un point d'exclamation là-dessus. Je vous charge, voilà encore cette commande. Je vous en recommande, devant Dieu en Jésus-Christ et les anges élus, de garder ses instructions sans partialité. Ne faites rien par favoritisme. Il est très tentant, dans la direction d'un pasteur, de favoriser ceux qui nous soutiennent. Et le problème est que les humains étant ce qu'ils sont, parfois les gens favorisent le pasteur, puis plus tard ils veulent une faveur du pasteur. Et ce n'est pas grave tant qu'ils ne vous demandent pas de péché. D'après ce qu'ils disent, ignoreriez-vous cela ou me laisseriez-vous un peu de temps ici ou aideriez-vous mon fils à obtenir le contrat pour faire ce travail à l'église parce qu'il a une nouvelle entreprise? Je soutiens beaucoup l'Église. Il existe des moyens par lesquels un pasteur peut être corrompu par les demandes apparemment innocentes de ses partisans dans l'Église. Et il est très difficile d'être impartial en tant que pasteur-leader. Mais cela fait partie de la vision de l'épître du pasteur. Et c'est très grave parce que cela est aux yeux de Dieu en Jésus-Christ et des anges élus. Maintenant, c'est vraiment sérieux. Et donc, je pense que cela témoigne du niveau de difficulté d'être un pasteur leader impartial et d'être profondément engagé envers toutes les personnes dont vous avez la charge, mais d'être attentif à la manière dont ils pourraient vouloir tordre, déformer et profiter de leurs relations. avec vous pour leur propre bénéfice. Cela remonte en quelque sorte à 1 Timothée 3. Ne vous précipitez pas dans l'imposition des mains. Lorsqu'un surveillant était nommé, il semblait y avoir une reconnaissance publique. Et cela est encore vrai aujourd'hui dans de nombreuses églises, lorsque quelqu'un est répertorié comme pasteur ou diacre ou quel que soit le nom qu'on lui donne dans cette église, le pasteur leader, alors il y a l'imposition des mains. Paul dit de ne pas être pressé de faire ça. Ne partagez pas les péchés des autres. L'implication est que si vous êtes pressé, vous pouvez nommer des personnes qui sont encore plus dans leurs péchés qu'elles ne le sont dans leur quête de Dieu. Et parce que vous les approuvez, vous serez partie prenante de leurs erreurs. Vous en êtes en partie responsable. Gardez-vous pur. Cela n'a plus rien à voir avec les jeunes femmes et sûres. Cela a à voir, encore une fois, avec la promotion au service de personnes qui vont faire honte au nom du Christ et au nom de l'Église. Nous avons donc simplement parlé du respect des aînés et de la bonne gestion des aînés. Maintenant, il parle probablement de s'occuper des plus jeunes. Gérez les personnes qui aspirent et sur lesquelles vous allez mettre la main. Ne soyez pas pressé de faire ça. Puis prendre soin de soi. Il s'inquiète pour la santé de Timothée. Timothée a arrêté de boire du vin. Et Paul dit qu'un peu de vin serait bien, Timothée. Et nous pouvons débattre du bien fondé médical de cette affirmation. Mais je pense que le principe est très clair. Les pasteurs doivent être attentifs à leurs propres besoins et conditions physiques et ne pas être ascétiques destructeurs. Ascète signifie que vous vous renoncez. Et probablement avec l'idée que plus je me renie, plus Dieu sera heureux car Dieu ne veut-il pas que nous soyons malheureux? Et bien sûr, Dieu ne veut pas que nous soyons malheureux. Et il a déjà dit que la bonne nourriture est bonne. Une bonne nourriture impliquerait du bon vin et l'utilisation judicieuse de la générosité de Dieu à la création. Mais il est facile de ne pas s'arrêter avec un peu de vin. C'est pour ça qu'il dit un peu de vin. Cela ne dit pas que vous avez des problèmes d'estomac. Alors je veux que tu bois une bouteille de vin tous les soirs. Oubliez vos problèmes. Je pense que n'importe quel commentaire dira que l'alcool contenu dans le vin tuerait certains organismes et rendrait l'eau plus potable. C'est donc ce qu'il disait. Parce qu'il a des maladies fréquentes. En fait, j'ai connu un Allemand. Il est avec le Seigneur maintenant. Mais il a fait beaucoup d'enquêtes dans un pays africain. Et l'eau et la nourriture n'étaient pas toujours sûres pour les Européens. Et il a dit qu'après avoir mangé, il boirait toujours un verre de schnapps. Et c'est en quelque sorte une teneur élevée en alcool. Mais il a juré que cela les aidait à ne pas tomber malades. Je ne sais pas si c'était vrai ou non. Mais ce serait l'idée. Maintenant, un verre de schnapps après un gros repas, pas un verre, mais un shot, ça ne va pas vous enivrer. Mais cela pourrait aider à purifier le contenu de votre estomac. Et c'est ce que Paul dit ici. Les péchés de certains sont évidents dans le résumé du chapitre. Atteignant le lieu du jugement devant eux, les péchés des autres traînent derrière eux. De la même manière, les bonnes actions sont évidentes, même celles qui ne le sont pas ne peuvent rester éternellement cachées. Donc, ce qu'il dit, Timothée, reste fidèle à ce que je te dis. À long terme, cela fonctionnera. Vous en verrez la sagesse. En conclusion, une bonne pastorale maintient un haut niveau de sensibilisation pratique. Verset 16, à propos des veuves. Ne laissez pas l'Église s'en charger afin qu'elle puisse aider les veuves qui sont vraiment dans le besoin. Une bonne pastorale favorise et maintient un haut niveau de sensibilisation pratique. C'est l'une des raisons pour lesquelles les pasteurs devraient être hospitaliers, c'est parce qu'ils montrent l'exemple en prenant soin des autres de manière personnelle. Deuxièmement, même si les aînés méritent l'honneur, ils nécessitent également un examen minutieux et une direction sans favoritisme, et ils sont soumis à des normes plus élevées. Cela devrait donc être clairement expliqué aux futurs anciens. Parce que je sais que certains hommes ne peuvent s'empêcher de voir cela comme un honneur. Je suis sur la liste pour l'élection des aînés. Et plus nous pensons ainsi, moins nous avons le droit d'être un aîné. L'aîné est une responsabilité. Cela va représenter beaucoup plus de responsabilité que d'être entraîneur de baseball. Être entraîneur de baseball s'avère être plutôt amusant. Être un aîné est profondément gratifiant, mais ce n'est pas amusant au niveau d'un entraîneur de baseball. En fait, il y aura beaucoup d'heures solitaires à prier et parfois à conseiller les gens ou à discuter de problèmes. Peut-être des nuits blanches, des réunions tard dans la nuit. Peut-être que votre propre portefeuille sera épuisé parce que vous verrez des besoins auxquels vous pouvez répondre et avec lesquels vous ne voulez pas déranger l'Église. Je veux dire, être un aîné est un sacrifice. Ce n'est pas un poste de PDG. Et cela nécessite un niveau plus élevé. Les gens devraient donc que ce soit clair. Encore une fois, l'exemple du pasteur est très important. Si le pasteur se met à la disposition de Dieu et des gens, il y a moins de tentations lorsque les gens pensent « Oh, je veux avoir un travail confortable avec beaucoup de récompenses et d'honneurs comme lui ». Il donnera le ton du service et du sacrifice de soi à l'image du Christ. Et quand il invitera quelqu'un d'autre à réfléchir à cela, parce qu'il aura manifesté de l'intérêt, il pourra voir « je ne suis pas sûr de vouloir ça ». Et s'il le désire, ce serait plus probable, parce qu'il le voit vraiment et ressent simplement cet appel de Dieu. Je veux être un agent du service évangélique dans cette église. Et oui, cela va me coûter cher, mais c'est la chose la plus épanouissante au monde. Il n'y a rien de plus épanouissant que d'être en accord avec Dieu. C'est plus enrichissant qu'amusant. C'est plus gratifiant que de conduire un jet. C'est plus épanouissant qu'une moto. C'est plus enrichissant que de voyager. La chose la plus enrichissante que nous puissions faire dans le monde est de trouver un lieu de service et d'adoration et de jouissance des dons de Dieu et du service pour Dieu et de vivre cela et de profiter des saisons de repos et des soirées au bord du lac ou autre. Je veux dire, il existe de nombreuses occasions de profiter de la vie dans de nombreux endroits du monde. Mais même si nous sommes dans un endroit du monde où il y a la pauvreté et l'oppression, où il n'y a pas de voyage de vacances et où nous mangeons un repas par jour, même dans ces endroits du monde, Dieu vient à nous. Il visite son peuple et rend le service fructueux et il rend notre sacrifice joyeux en sa présence. C'est donc une bonne chose de devenir un aîné ou de prendre soin des veuves. Troisièmement, Timothée doit être proactif en matière de leadership, d'habilitation et de prise en charge personnelle. Soins auto-administrés. La manière dont les gens vivent pour le mal ou pour le bien est une préoccupation pastorale constante. Et nous devons avoir cette vision à long terme que Paul définit pour Timothée. Les choses se dérouleront comme elles sont réellement. Et donc, sur le moment, nous devons vivre avec le sentiment d'abandon face à l'avenir que Dieu déterminera. Vous savez, les péchés sont des péchés. Bon et bon. Allez avec ce que nous pouvons voir comme étant vrai pour le moment et laissez le défaut à Dieu. Ne devenez pas simplement un pragmatique. Oh, ouais, ça dit que c'est un péché, mais regarde comment ça marche. Si nous faisons cela, le monde nous acceptera. Ou alors, c'est vraiment difficile. Ne faisons pas ça parce que c'est trop dur. Non, si c'est bien, c'est bien. Et à long terme, dans la sagesse et la grâce de Dieu, nous verrons les choses telles qu'elles se présentent réellement aux yeux de Dieu. C'est tout le temps dont nous disposions pour 1 Timothée 5. Merci. Il s'agit du docteur Robert W. Yarbrough et de son enseignement sur les épîtres pastorales, l'instruction apostolique pour les dirigeants pastoraux et leurs disciples. Séance 6, 1 Timothée 5.